Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, tu t'adresses à nous de diverses manières. Tu connais nos cœurs. Tu sais ce dont nous avons besoin. Seigneur, je prie pour que chacun, ce matin, soit en mesure de capter ce qui est nécessaire pour sa croissance spirituelle, pour la guérison de son âme, pour son salut. Je prie, Seigneur, afin que, par ta grâce et par la puissance de l'Esprit de Dieu, Seigneur, tu donnes à chacun selon ses besoins. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais que nous prenions un passage dans Matthieu 11. Bon, ça va, j'ai beaucoup de temps pour prêcher aujourd'hui. Ah, j'ai pas deux heures. Bon, la montre là-bas est en panne, donc je vais essayer de ne pas oublier l'heure. Et je vais prendre donc Matthieu 11, à partir du verset 25, jusqu'à la fin du chapitre. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est les Fils, et celui qui a le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Je vais simplement m'arrêter sur un verset, qui est le verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc parfois on lit des morceaux très longs, et parfois on lit des morceaux beaucoup plus courts. Et ce qui est important, c'est que le Seigneur puisse nous parler au travers de sa parole. Ce passage nous parle de prospérité spirituelle. Comment recevoir ce qu'il faut pour son âme? Comment recevoir le repos? Comment recevoir l'instruction de Jésus-Christ? Le monde, la plupart d'entre vous travaillez ou avez travaillé, et vous savez comment ça fonctionne. Vous avez d'un côté l'effort, et d'un côté, les faibles. Vous allez dans n'importe quel étage de la société, dans n'importe quel type de travail, vous avez cette qualification donnée aux personnes. Toi, tu fais partie des forts. Toi, tu fais partie des faibles. C'est pas dit comme ça, en général. On regardait dernièrement un reportage du GIGN, c'était Jonathan qui voulait absolument voir ça, et donc on montrait comment le GIGN formait ses soldats, et quelle ténacité il fallait pour arriver au bout de plusieurs semaines de préparation. Il fallait d'abord repasser des tests, ensuite un deuxième test, et ensuite faire des choses absolument incroyables. Et au fil du temps qui passait, vous aviez ceux qui étaient éliminés. Hein, il y avait ceux qui avaient passé le premier test, et puis tout le grand groupe qui a été éliminé. Et vous aviez ceux qui ensuite ont passé le deuxième test, et les quelques-uns qui ont été éliminés. Et ensuite, il y avait encore un entretien psychologique avec les officiers, et tout ça a été gardé secret. Et j'étais assez curieux de constater que les commentaires des formateurs, enfin de ceux qui étaient là pour faire passer les tests, c'était... Et encore, la caméra était là. Donc leur parole était sans doute plus gentille que ce qui sortait normalement. Et c'était bien ça qui ressortait. C'est des losers. C'est des perdants. Ils vont pas au bout parce qu'ils sont perdants. C'est des losers. Et les gens partaient de là. Certains, croyez-moi, venaient des chasseurs alpins. D'autres venaient de sections spéciales de la gendarmerie. Ou d'autres venaient de sections spéciales de l'armée. Et ils faisaient pas l'affaire. C'est des losers. N'est-ce pas? On nous met dans un monde, où nous sommes dans un monde où la compétition, c'est le maître mot. Et vous allez dans n'importe quel métier. Je peux vous dire que chez moi, c'est comme ça. Vous allez dans le social, c'est comme ça. Vous avez ceux qui réussissent et vous avez ceux qui ratent. C'est des losers. Vous allez dans les sciences, vous avez les sciences dures et vous avez les sciences molles. Les sciences molles, c'est pas bon. Ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un protocole scientifique. Vous allez partout. Et vous rencontrez ça. Les enfants de Dieu, en principe, vivent selon un autre ordre, n'est-ce pas? En principe. J'ai rencontré malheureusement des endroits où on a les mêmes pensées. N'est-ce pas? Il y a ceux qui sont les gagnants, ceux qui vont pour le Seigneur, et les autres. C'est des losers. Je ne crois pas du tout que le Seigneur nous voie de cette façon-là. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Vous trouverez du repos pour vos âmes. N'est-ce pas? Lorsque les gens sont éliminés comme ça, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ceux qui étaient des gagnants, et on l'a vu, hein, notamment là, lorsqu'il y a de l'argent en jeu, à la bourse, lorsque ça craque, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui étaient les gagnants deviennent des perdants. Et souvent, ils se suicident. Ou ils tombent en dépression. Ou d'ingénieurs, ils deviennent, je sais pas, cuisiniers. Enfin, ils se disent, il faut que je change ma vie, il faut que je parte de là où j'étais, il faut que je disparaisse. Mon joug est doux. Il y a du repos pour vos âmes. Dans l'Église, on peut se retrouver en situation où on pense, où on croit. On fait partie de ces perdants. Le Seigneur a donné des choses à certains, mais pas à moi. Le Seigneur agit dans la vie de certains, mais pas dans la mienne. Le Seigneur donne des révélations à certains, mais je ne suis pas concerné. Et cas, avec ce que le monde nous apprend de la vie, et avec ce que nous vivons au quotidien, nous commençons à croire que nous faisons partie de ceux qui n'ont pas droit au chapitre, de ceux qui sont des perdants. Et c'est pas du tout le message de la parole. On peut être persuadé que ce n'est pas le message de la parole, et pourtant, vivre à l'inverse de ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a du repos pour vos âmes. Alors on se cache, parfois, surtout après des années, on se cache derrière un vernis spirituel. Parce qu'on a appris ce qu'il faut faire pour ne pas apparaître dans la défaite. On a appris comment il faut sourire. On a appris comment il faut se lever. On a appris comment il faut prier. On a appris comment il faut se comporter avec les uns et les autres. On a appris à recevoir. On a appris à donner. On a appris à faire toutes les choses du chrétien parfait. Et pourtant, ce qui est derrière, c'est le sentiment d'échec. Ce qui est derrière, c'est le sentiment que le Seigneur m'a abandonné. Il est parti. Je connais la doctrine. J'ai peut-être fait l'école biblique. J'ai étudié les livres. Peut-être que je suis imbattable sur certains sujets. Peut-être que je suis un spécialiste de la polémique, un spécialiste du question-réponse. Peut-être que je suis une concordance vivante. Et pourtant, j'ai l'impression que je fais partie de ceux qui ont été abandonnés. Alors, quelle attitude ? Il y en a qui quittent l'Église. Il y en a qui partent. Ils ont ruminé pendant des années. Ils ont réfléchi à leur situation. Ils ont trouvé qu'eux-mêmes n'avaient rien à se reprocher. Donc c'est l'environnement qui ne va pas. Donc on s'en va, on part. Et on a fait juste que déplacer le problème ailleurs. Et plutôt que de s'ouvrir au Seigneur, plutôt que de se remettre en question, plutôt que d'aller devant le trône de la grâce, on commence à perdre l'amour qui était le nôtre pour le Seigneur. On commence à flétrir en tant que chrétien. La prière n'existe plus. Dieu est loin, les souvenirs, les soupirs inexprimables, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit devrait créer en nous, deviennent des soupirs d'ennui. Les réunions, les prières ne m'intéressent plus. Les réunions d'études bibliques ne m'intéressent plus. Le dimanche, j'y vais par habitude. Je fais partie de ceux qui ont perdu. Je fais partie de ceux qui sont un peu irrécupérables. Je vais qu'à un quart comme je peux. Je ne sais pas si je décris un peu la situation de quelques-uns. Mais ce sont des situations qui existent. Le grand drame là-dedans, c'est que la réalité, c'est simplement que l'on s'est éloigné du Seigneur. Ce n'est pas qu'il s'est passé des choses particulières. Ce n'est pas que on est moins chanceux que notre voisin. C'est qu'on a oublié quelque chose. On a oublié de rester auprès du Seigneur. Du repos pour vos âmes. Alors certains diront, oui mais Seigneur, le joug sur moi est dur. Le peuple d'Israël, comme disait Paul, râlait sans arrêt. parce qu'ils trouvaient que le joug de Dieu était trop dur. Que ce que Dieu leur demandait était trop dur. Et Dieu leur reprochait de vouloir résister à ce joug. Dieu leur reprochait d'avoir le cou roide. Et au lieu de répondre à ces demandes et d'accepter, de se conformer à la demande de Dieu, ils se rebellaient. C'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'on n'appartient plus à la sphère divine. C'est parce que quelque part, il y a quelque chose dans le cœur qui s'appelle de la rébellion. Pourquoi ma vie spirituelle est-elle si difficile? Pourquoi ma vie quotidienne est-elle si difficile? Pourquoi suis-je tiède? Pourquoi ne suis-je plus comme au premier jour? Alors la première des choses que dit le Seigneur ce matin, c'est ton joug est léger. Ton joug est léger. Quel que soit ce poids que vous pouvez avoir au-dessus de vous, ton joug est léger. Ça, c'est la vérité. Si tu t'es purifié, si tu t'es mis en règle avec Dieu, si tu es pardonné, ce matin, ton joug est léger. Et ça, c'est la vérité. Et le reste ne sont que des mensonges du diable. N'est-ce pas? Lorsque Jésus a dit cela, il n'a pas dit « c'est une promesse pour l'avenir ». Il n'a pas dit « c'est quelque chose qui viendra en son temps ». C'est un fait. Ton joug est léger. Qu'est-ce que c'est un joug? J'imagine que tout le monde le sait. Ce sont ces choses en bois qu'on mettait sur le cou des bœufs, n'est-ce pas, qui faisait que les bœufs restaient avec le cou dans l'alignement du corps, en fait. Donc ils ne pouvaient pas redresser la tête comme ça, violemment, et se dégager de leur harnachement. Ils restaient là, comme ça, et ça les gardait bien en ligne, notamment lorsqu'il fallait labourer les champs. Moi, j'ai fait ça avec des chevaux. Je ne suis pas si vieux que ça, mais... Ton joug est léger. J'aimerais que nous allions dans Luc, chapitre 19. Verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant : Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez : Le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : Pourquoi détachez-vous l'ânon ? Ils répondirent : Le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Le joug. Je suis convaincu que le joug que nous avons sur le dos, c'est Jésus lui-même. Cette histoire nous apprend une chose. C'est que Jésus est monté sur un ânon. Jésus est monté sur un ânon sur lequel aucun homme n'était monté auparavant. Des enfants étaient peut-être montés sur lui, sur son dos. Des enfants avaient peut-être joué avec cet ânon. Mais jusqu'alors, aucun homme n'était monté sur son dos. Qu'est-ce qu'un homme ? Si moi j'étais monté sur un ânon, à 100 kilos, l'ânon se serait écroulé. Jésus est monté sur l'ânon et l'ânon ne s'est pas écroulé. Mon joug est léger. Vous comprenez que les ânons, c'est vous et moi. Vous comprenez que le joug qui est sur nous et que Jésus nous donne, ce n'est pas un joug importé de quelque part, un concept, une façon de vivre, une philosophie. C'est lui-même qui vient. J'ai besoin. Le maître en a besoin. Le maître a besoin de toi. Et le maître veut grimper sur toi. C'est lui ton joug. C'est lui qui vient et qui monte sur ton dos. C'est lui le fardeau. C'est lui qui est léger. Qu'est-ce qu'un homme, Ponce Pilate, lorsque la foule criait pour que Jésus soit crucifié, exécuté. Ponce Pilate a fait apparaître Jésus et il a dit « Voici l'homme !» Voici l'homme. C'est lui qui est sur notre dos. Celui qui a tout vu, tout connu, tout appris de nos souffrances. Celui qui a porté toute la misère du monde sur ses épaules. Celui qui s'est humilié au point de devenir un homme. C'est lui, l'homme, le seul, l'homme parfait. Tous les autres avant lui n'étaient que des enfants. Tous les autres avant lui étaient trop courts dans ce qu'ils étaient pour remplir les conditions divines. Jésus, voici l'homme. Et c'est celui qui monte sur votre dos. C'est lui votre joug. C'est lui mon joug. Nous avons le même épisode qui nous est raconté dans Jean 12. Un peu différemment, ce passage est cité dans les quatre évangiles. Verset 14. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, ne crains point, fille de Sion, voici ton roi. Voici ton roi, viens assis sur le petit d'une ânesse. Ponce Pilate, qui était prophète sans le savoir. Jean 19, verset 14. Après avoir dit au verset 5, « Voici l'homme !» Il dit à la foule, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi !» C'est un homme qui est monté sur un ânon. Et c'est un roi qui est monté sur un ânon. Et ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'en tant qu'homme, il a vécu tout ce que nous avons à vivre et il nous comprend et il sait ce que nous sommes et ce que nous vivons et il peut compatir à ce que nous vivons. Et en tant que roi, il a les moyens de répondre à nos besoins et à nos demandes. En tant que roi, il est celui qui peut nous guider au bon endroit. Il est celui qui peut nous conduire dans le repos de l'âme. Nous avons un joug sur nous, mais nous avons aussi une couronne. Jésus est notre joug et il est notre couronne. On va retourner à Matthieu. Alors, frères et sœurs, j'aimerais tant que ces paroles, ces vérités s'incrustent dans notre cœur. Que nous portions cela avec puissance. Que cela fasse un effet pour la vie éternelle. Pour toute la vie sur la terre, mais après aussi. Recevez mes instructions. Qu'est-ce que nous avons reçu? L'apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Qu'est-ce que l'esprit de servitude? L'esprit de servitude, c'est l'esprit servile. C'est celui qui vit dans la crainte. C'est celui qui fait tous les services dans la crainte. Et quand on est comme ça, alors tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on veut plaire à l'autre. Je viens balayer l'église parce que je veux plaire à l'autre. Je vais dire ceci ou cela parce que je veux plaire à l'autre. Vous comprenez, l'esprit de servitude, c'est un lien puissant. Où les choses sont faites, non pas parce qu'il y a une relation avec Dieu qui nous conduit à faire les choses, mais parce que si nous ne le faisons pas, nous pensons que nous serons punis. Nous pensons que nous ne serons pas acceptés par les autres. Nous pensons que nous serons mal jugés et qu'on ne nous aimera pas si on ne le fait pas. Et on fait des choses, et on se force à les faire. Et même on prend l'habitude de les faire. Et ça devient une nature. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez « Abba, Père !» Vous avez reçu le Seigneur Jésus. Il est dit, alors marchez en lui. L'apôtre Paul dit, Christ en nous, ou Christ en moi, je ne sais plus, l'espérance de la gloire. C'est ça que nous avons reçu. C'est lui que nous avons reçu. Je suis doux et humble de cœur. La douceur selon Dieu, ce n'est pas un trait de caractère. Ce n'est pas cette façon gentille. Le terme signifie gentil. Mais ce n'est pas cette façon gentille de se comporter qu'on peut avoir. En tout cas, ce n'est pas que ça. Sans doute que par extension, c'est comme ça que ça devient. Mais la douceur, selon Dieu, ce n'est pas un trait de caractère particulier ou une disposition naturelle. La douceur, selon Dieu, c'est une attitude de cœur. Finalement, c'est une puissance, la douceur. C'est quelque chose qui nous amène à l'obéissance. C'est-à-dire que la douceur n'est pas tournée premièrement vers les hommes. Elle est premièrement tournée vers Dieu. Parce qu'il n'y a plus la rébellion. Vous comprenez ? Parce que ce qui est en moi, c'est une volonté de calme. C'est une volonté où la rébellion a été abolie. C'est une ambiance qui me rend capable de me tourner vers mon Père et de recevoir de lui toute forme d'instruction. Sans qu'en moi, il y ait quelque chose qui vienne lutter contre et dire « Mais non, ça je ne le ferai pas. À tel endroit, je n'irai pas, Seigneur, si tu m'envoies. » La douceur, c'est une puissance. C'est une puissance. Humble de cœur. Ceux qui sont doux sont humbles de cœur. Il les a mis ensemble. Ceux qui sont humbles sont doux devant le Seigneur. Je l'ai déjà dit, il y a de l'humilité qui n'est pas de l'humilité. Il y a de l'humilité qui est de la servilité. N'est-ce pas? On aime être complimenté pour ce qu'on fait. On aime lorsque les gens nous disent « Mais tu sais, tu es indispensable pour moi, pour nous. Tu es indispensable à l'Église. Qu'est-ce qu'on ferait si tu n'étais pas là ?» Parfois, je me demande si on fait bien de parler comme ça. Si je me prends moi, je vise personne, mais je tondais le gazon et que personne ne venait me dire « Ah, c'est fantastique, oh merci, merci de l'avoir fait. » Est-ce que je le ferais aussi bien ? Est-ce que je le ferais aussi régulièrement ? Si lorsque je nettoie les toilettes, il n'y a pas quelqu'un derrière moi tout de suite pour me... Tu sais, franchement, tu as fait quelque chose que moi, j'aurais pas voulu faire et je te remercie vraiment. Vous comprenez ce que je veux dire ? Évidemment, c'est bien d'une certaine manière de reconnaître ce que font les gens, oui. Mais ça peut aussi avoir des conséquences désastreuses dans la vie. C'est qu'alors on fait parce qu'on sait qu'on va recevoir un bénéfice. On sait qu'il y aura un gros câlin qui va venir et ça va nous faire du bien. Mais ça, c'est pas de l'humilité. N'est-ce pas, c'est pas de l'humilité que de faire quelque chose en faisant comme si on le faisait naturellement et en faisant d'un autre côté tout pour qu'on remarque qu'on l'a fait naturellement. Ça, c'est pas de l'humilité. Ça, c'est un orgueil qui est gros comme ça. charité n'est pas destinée à nous rendre populaires. Jésus fuyait les situations où on le mettait en valeur. Les apôtres, Paul a refusé, Pierre a refusé qu'on se prosterne, je crois que c'était Pierre, devant lui. Jésus ne cherchait absolument pas la renommée. Et lorsqu'il faisait quelque chose, souvent il disait « ne le dis à personne ». Où en sommes-nous aujourd'hui dans les églises? Où en est le monde chrétien? Dès que quelqu'un est utilisé par Dieu, c'est la recherche de la notoriété, la recherche de la reconnaissance du plus grand nombre. L'humilité n'est pas dans ces choses. Alors bon, si vous voulez devenir impopulaire, vous savez ce qu'il faut faire? Alors, je vais vous le dire. Vous prêchez sans compromis la parole de Dieu. Et vous reprenez dans la douceur les personnes qui font mal devant Dieu. Ça rend assez impopulaire. Mais l'obéissance est plus importante que tout. L'obéissance, c'est la première des choses. Alors que faire pour trouver le repos définitivement? Et on n'en a pas fini avec les ânes, vous allez voir. Vous avez compris que Jésus est le joug, qu'il est un homme, qu'il est le roi et qu'il est une couronne pour nous. Mais aussi, là où nous avons vraiment besoin d'apprendre, c'est de nous fonder sur aujourd'hui ce qui est invisible. Lorsque Jésus était là, on se fondait sur l'invisible. Aujourd'hui, Jésus est invisible et nous devons apprendre à vivre en faisant foi à l'invisible plutôt qu'au visible. Et donc nous allons aller pour cela dans Nombre, où il y a une histoire merveilleuse qui m'a frappé il y a des années et qui exprime bien cet aspect des choses. Nombre 12. C'est nombre 22. C'est l'histoire de Balak et de Balaam. Verset 21, Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu étroit où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam : « Que t'ai-je fait ? pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ? Balaam répondit à l'ânesse. C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour ? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ? Et il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois ? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi, qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué. Et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu fusses placé au-devant de moi sur le chemin. » Évidemment, nous n'avons plus Jésus sur le dos dans cette histoire, mais nous l'avons devant nous. L'ange de l'Éternel est devant. Ce que Dieu donne à nous, les ânes, c'est la capacité de le voir, lui. N'est-ce pas merveilleux? Alors que le monde essaye de nous chevaucher, alors que ceux qui se disent savoir et connaître, parce que Balaam savait beaucoup de choses et Dieu lui parlait. Ceux qui nous traitent avec violence, qu'il s'agisse des hommes ou des puissances de l'enfer, et qui essayent de s'approprier nos vies, ceux-là ne voient pas ce que nous ne voyons. Et frères et sœurs, j'aimerais vous convier à quelque chose. J'aimerais que chacun de nous, nous décidions aujourd'hui de devenir des ânes, tels que l'âne de Balaam. Parce que le seul qui avait vu juste dans cette histoire, c'était l'âne. Le seul qui a obéi dans cette histoire, c'était l'âne. C'était pas le grand prophète. Lui a vu partiellement certaines choses. Mais Dieu s'est révélé de façon tout à fait particulière à cet âne. Et qu'est-ce qui se serait passé si le prophète avait été au-delà? L'ange de l'Éternel l'aurait tué. Et il aurait pris soin de l'âne. Je crois qu'il faut, dans nos vies, arriver à accepter cela. Seigneur, je ne veux pas être le plus beau. Je ne veux pas être le meilleur. Je ne veux pas être celui qui a raison tout le temps. Je ne veux pas être celui qui sait tout mieux que les uns et les autres. Seigneur, moi je veux être un âne. Comprenez ce que je veux dire. Je vais être de ceux qui obéissent sans discuter parce qu'ils ont sur le dos un homme, un vrai, le seul. Parce qu'ils ont sur le dos un roi rempli de douceur et d'humilité qui est notre couronne. Parce que nous voyons et nous pouvons voir dans l'invisible. les choses que l'ange de l'Éternel veut nous révéler à chacun. Et le Seigneur veut que nous vivions par la foi. Que nous nous reposions non pas sur nos œuvres, non pas sur les choses que nous pouvons faire, non pas sur notre force, nos capacités, qui peuvent être grandes, mais que nous nous reposions sur la vision de l'Éternel, de l'ange de l'Éternel qui est devant nous, que nous recevions ses instructions.